On commence tout de suite par les marchés. Bon, je sais pas, c'est à la fois mou, mais à la fois quand on regarde la perte depuis le début d'année, c'est quand même pas mal. Donc je sais plus quoi penser. Bon, cette semaine, on a pris un petit coup sur la tête, mais léger, quoi. À chaque fois, on baisse, mais il se passe rien de catastrophique. Là, la surprise, la mauvaise surprise, c'était les chiffres mous de la croissance américaine avec des chiffres forts de l'inflation américaine. Ça n'a pas plu au marché, mais il résiste bien. Avant de passer la parole au gérant, Emmanuel, ça vous a surpris la résistance de l'inflation aux États-Unis? Parce qu'elle était quand même largement supérieure aux anticipations. Elle a rebondi alors qu'on était tous en train de dire, moi y compris, qu'on allait baisser graduellement.
Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire plus de croissance et moins d'inflation, c'est compliqué.
Mais là, on a moins de croissance et plus d'inflation.
On a moins de croissance, oui, beurre, parce que le chiffre, honnêtement, le chiffre du premier trimestre,
il est bizarre.
C'est-à-dire que je ne pense pas que ça reflète un arrêt de la trajectoire de croissance. Donc oui, forcément, si vous avez un peu plus de croissance, vous avez aussi un peu plus d'inflation.
Mais quand même, avec Jean-Marc Daniel qui dit il n'y a pas d'inflation, nous qui disions ici, alors c'est vrai pour l'Europe.
Non mais on a toujours pris soin de distinguer le cas américain du cas européen.
C'est vrai. Donc aujourd'hui, les marchés ont raison de se poser des questions sur la baisse de l'inflation aux États-Unis.
Et puis ils ont surtout des raisons de se poser des questions sur la baisse des taux aux États-Unis aussi.
Mmh. Ah oui, baisse des taux aux États-Unis. Oui, Anna, vous pariez sur une baisse des taux aux États-Unis en 2024 ou pas?
Peut-être ça sera plutôt en deuxième partie de 2024.
Oui, est-ce que vous pensez qu'il y en aura quand même une en 2024?
C'est probable, mais ça va dépendre de l'action de la Fed, en fait. Et est-ce que la Fed, surtout, arrête de racheter notamment des bons du Trésor? Si elle arrête, effectivement, si elle commence à se délester dans son bilan de tout... C'est bon du trésor qu'elle avait accumulé, oui. Mais effectivement, je suis d'accord avec Emmanuel, il y a une grosse différence entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe.
Évidemment. Louis Defels, la bourse, elle est trop haute, elle n'est pas haute?
Non, ça ne me semble pas trop. Est-ce que là, le marché, en effet, price plus que 34 BP de baisse des taux? Je vous rappelle, en début d'année, c'était 6 baisses de taux.
Anticipé.
Ouais. Mais à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de baisse de taux. Ça veut dire, comme disait très justement Emmanuel, c'est que la croissance est là, et donc la croissance des bénéfices par action va arriver, parce qu'il ne faut pas oublier que la bourse, c'est quand même la croissance future des bénéfices par action. Donc ce qui est très intéressant, c'est que normalement, on devrait avoir une accélération à la croissance des bénéfices, parce qu'il faut se rappeler que depuis octobre dernier, les marchés sont remontés que sur le re-rating, sur les perspectives. Parce que quand on regarde ce qu'on appelle le PE ratio, vous savez, le price earning ratio, mais c'est remonté de 11 à 13 fois. Donc ça s'est fait en fait, c'est la valorisation du résultat net de l'entreprise. Okay. Si on fait une société 15 fois, c'est-à-dire qu'elle se paye 15 fois le résultat net. Et donc là, il y a eu un re-rating. On est passé pour le CAC 40 ou en Europe de 11 fois à 13 fois. Et ça s'est fait que donc sur la progression du multiple et pas sur les bénéfices par action. Donc là, on s'attend clairement que les bénéfices par action vont rebondir. Clairement, on attend aux États-Unis 9% cette année et 14% l'année prochaine. En Europe, un peu moins, on est à 4% cette année et 10 l'année prochaine. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le fait qu'on ne baisse pas les taux, ça donne ce qu'on appelle un peu le Fed put. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si l'économie devrait se dégrader, là, dans ces cas-là, Jerome Powell dirait « je baisse les taux », ça rassurerait les marchés.
Vous dites, à contrario, le fait que l'inflation soit relativement élevée et que les taux restent élevés, c'est pas une mauvaise
chose? Non, c'est pas forcément une nouvelle, parce que c'est pour une bonne raison. C'est parce que l'économie repart et les sociétés... Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que voilà, on passe d'une économie de good news et good news. Avant, rappelez-vous, c'est quand il y avait une mauvaise nouvelle, le marché montait. Donc là, c'est beaucoup plus sain. Et surtout, il commence à avoir une décorrélation entre les taux et le marché. Donc c'est ça ce qui est plutôt...
Vous êtes super optimiste aujourd'hui.
Oui, on est assez
optimiste. Vous êtes arrivé, je ne sais pas si vous avez fumé dans le couloir, mais...
Non, mais vous connaissez, on est toujours assez optimiste. Et surtout, il y a aussi, cerise sur le gâteau, il y a le rebond des opérations boursières, ce qu'on appelle les OPA, rien que cette semaine, il y en a quasiment eu 3, rien que pour cette semaine.
Oui, alors ça, je m'excuse, mais ça, ce n'est pas une super bonne nouvelle.
Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc je pense
c'est une bonne nouvelle quand on aura la battle pour le private equity.
Non, mais c'est
peut-être une bonne nouvelle pour le private equity, mais franchement, de voir des belles sociétés partir de bourse,
c'est pour ça qu'on peut... avec Romain notamment, très souvent vous pouvez compter, que ce soit Moneta ou Gay-Lussac Gestion, pour protéger les porteurs de parts. Je me rappelle Environnement et SAR, on était quasiment les deux seuls porteurs à avoir empêché l'OPA, et grâce à notre bataille on a eu quoi, jusqu'à 25 ou 30% de relèvement de prix.
Oui, mais la boîte est sortie quand même.
Oui, mais au moins les gens qui nous ont fait confiance ont été faits à juste prix.
De voir quand même la bourse se réduire un peu, pas comme une peau de chagrin, mais voir quand même des belles sociétés sortir. Bon, alors que celles qui rentrent sont pas forcément top, ça vous fait pas mal au cœur?
Ça fait longtemps qu'on répond, nous, que on est 16 analystes chez Moneta, on travaille beaucoup et on étudie qu'une petite partie des valeurs qu'on peut étudier en Europe. Donc vous voyez, le gisement est tellement gros et on est des petits acteurs, on reste agile. C'est pas le sujet pour nous.
C'est pas le
sujet pour nous, pour trouver des performances.
Mais
des
quand même, la bourse, elle vit.
Oui, mais
c'est comme un pays.
Mais il y a des centaines de sociétés cotées en Europe. Alors après, sur la, je veux dire, ça veut dire si les sociétés sont pas cotées, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas.
Hein. Non, je comprends.
Donc au niveau de l'économie, ça. Donc moi, je suis pas inquiet sur ça parce que je suis sûr, de toute façon, il y aura besoin de la bourse pour faire des introductions. Les fonds de private equity un jour aujourd'hui, ils peuvent pas vendre parce que ils ont des exigences. Ouais. Qui sont supérieures à ce que la bourse est prête à leur offrir. Et
vous n'avez pas du tout d'inquiétude là-dessus? Parce que moi, je vous avoue que de temps en temps, je me pose la question. C'est-à-dire, je me dis, je vois sortir, j'ai l'impression que, bon, voilà, ça va que dans un sens, quoi. C'est-à-dire que les belles boîtes sortent, et je me dis, mince, encore une sortie, bah, c'est dommage, quoi. Voilà,
oui, alors il y a beaucoup de belles boîtes qui existent et qui prospèrent.
Non, vous avez raison. Donc vous dites, non, mais c'est intéressant. Oui, je cherche à être rassuré.
Oui, nous, en tant qu'investisseurs, on a un gisement de société en Europe. Que nous n'exploitons que de manière très 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 limitée.
Oui, la bonne nouvelle, je partage assez, c'est que depuis deux ans, il y a eu les belles verts qui sont partis et les IPO, les introductions en bourse, c'était catastrophique. Là, on voit qu'il y a eu des très belles sociétés, Galderma en Suisse qui a très très bien marché. Il y a eu une société de software dont j'ai oublié le nom qui a très bien marché. Et vous avez la société Puch aussi qui est quand même un grand leader dans son domaine qui serait retournée en bourse. Donc voilà, ça tourne. Donc on peut espérer.
Ça tourne.
Voilà.
Vous êtes là, vous.
Si l'économie s'améliore, ça va revenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui les sociétés se bidaient.
Anna, qu'est-ce que vous voulez dire? Je sens que vous voulez dire quelque chose.
Non, c'est juste que je partage le fait que ce soit un renouvellement plutôt sain et qu'en fait c'est un peu une forme de destruction créatrice, c'est-à-dire que la bourse croit et enfin va avoir d'autant plus confiance et croire et vouloir miser sur des industries, enfin sur des valeurs qu'elles estiment dans les activités d'avenir. Effectivement, il y avait en bourse, sans doute on pourrait trouver il y a plusieurs années encore des fabricants de fer à cheval ou ce genre de choses. Voilà, ça se renouvelle, ça s'adapte. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signal de renouvellement sain.
Le niveau, je sais que vous détestez quand je vous pose la question, mais je vous la pose quand même, le niveau des marchés...
Bah aujourd'hui, en fait,
et le niveau des taux d'intérêt, bon, vous le regardez, ça, évidemment.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les résultats des sociétés sont bons, ils sont solides. Même si la croissance et des chiffres d'affaires n'est pas toujours exceptionnelle, pour les effets de base en partie de la cassité Louis, mais les résultats sont bons. Les sociétés sont souvent peu endettées, voire parfois à trésorerie positive. Celles qui sont endettées à long terme, et il y en a pas tant que ça. On voit bien le résultat des banques européennes. Il y a très peu de pertes sur crédit. Donc on est vraiment dans un environnement où, même s'il y a eu un ralentissement de la croissance à certains moments, il n'y a pas de panique. C'est sain au niveau des grandes entreprises et des entreprises moyennes cotées.
C'est important, ça.
Voilà. Alors après, peut-être au niveau de très petites entreprises qui ont des difficultés de financement, au niveau de start-up qui étaient financées par des venture capitalistes qui étaient peut-être à un moment trop généreux et qui sont retirés aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais au niveau global... des sociétés qui sont cotées, il y a très peu de faillites. Alors bien sûr, quand il y en a, on en entend parler, Casino, on voit Atos avec des difficultés.
Orpea.
Mais c'est pas la foule, c'est pas non plus des sociétés, c'est des sociétés qui étaient déjà. Enfin voilà. Donc il n'y a pas d'énormes surprises de ce côté-là. Et la preuve, c'est que les provisions des banques sur mauvaise créance sont restées à niveau très bas toutes ces dernières années, avant le Covid. Pendant le Covid et après le Covid, alors que beaucoup de gens disaient, bah après le Covid, vous allez voir, l'économie va redémarrer, les gens n'auront plus les fonds de roulement pour refinancer la croissance.
Mais
ça s'est pas vu.
Malgré ça, les actions bancaires, c'est pas terrible pour l'instant.
Au niveau des cours, alors c'est pas mauvais en Europe, c'est moins bon en France, parce qu'en France, elles pâtissent à court terme de la hausse des taux. Ouais. Elles aimeraient bien que les taux courts baissent, que la courbe des taux se repentifie. Mais au niveau européen, les banques sont reparties en termes de boursiers. Alors elles sont reparties de leurs cendres, elles sont très loin de leur plus historique, mais elles ont eu des très bonnes performances.
Emmanuel ?
Non, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, si vous prenez tous les grands agrégats qui racontent l'économie mondiale, vous êtes vraiment sur une forme apparente, j'ai envie de dire, de retour à la normale par rapport à la période avant Covid. Ce qui ne veut pas dire qu'on revient au monde d'avant. Hein, il y a énormément de mutations qui se sont produites. Mais si vous prenez les chiffres de croissance, par exemple, vous revenez sur des chiffres de croissance de moyenne longue période. Mmh. Si vous prenez l'inflation, on revient sur des rythmes de moyenne longue période. Si on reprend l'emploi, par exemple, regardez l'enquête qui est sortie en France sur les intentions d'embauche, on retrouve les niveaux de 2019. Ouais. Si vous prenez les défaillances d'entreprises...
Vous dites c'est retour à la normale.
Sur les marchés, pareil, oui, Mais ce qui ne veut pas dire que le monde n'a pas changé. Hein. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels l'activité revient au niveau d'avant Covid. Je pense au tourisme cette année, par exemple. Et donc, on voit bien que les défaillances, on va retrouver le rythme de 50, 55 000, qui est la respiration habituelle de l'économie française. Et donc, on retrouve un petit peu les lois de la gravité qu'on connaissait avant.
Ouais. Romain, j'ai une question à vous poser. Le grand phénomène là, de ces grosses boîtes technologiques américaines qui annoncent des dividendes maintenant. On a eu l'annonce par Alphabet, donc la maison mère de Google, qui a dit qu'elle allait verser un dividende. C'est un game changer, ça change la donne quand même. On a eu ça avec Facebook déjà une fois. Après, elles ont énormément de cash, elles en investissent beaucoup, mais elles en ont beaucoup. Est-ce que ça change la nature de ces entreprises, de ces sept magnifiques ou autres?
Alors, je suis pas sûr que ça change la nature, parce que de toute façon, ces sociétés faisaient beaucoup de rachats d'actions, ce qui est une forme de dividende, puisqu'en fait, elles rendaient du capital au marché.
Donc, c'est pas nouveau, c'est simplement une évolution.
C'est une évolution de leur manière de faire et de.
C'est une forme d'embourgeoisement, quand même.
Oui, c'est ça. C'était pour ça que j'en parlais.
L'établissement.
C'est-à-dire, est-ce qu'elles deviennent pas elles aussi, Emmanuel parlait d'un retour à la normale. Est-ce que ça ne devient pas des entreprises comme les autres?
Alors peut-être, mais alors énormes, mais pas comme les autres. Mais le sujet, c'est plutôt que les sociétés, justement, n'ont pas besoin du marché pour se financer aujourd'hui. C'est pour ça que le marché est relativement insensible à ce qui peut se passer sur les taux d'intérêt. Parce que, vous voyez, on parle il y a peu d'introductions en bourse, même si, oui, on a cité quelques-unes qui étaient revenues. Il y a très peu d'augmentation de capital, parce que en général, les grandes, ou même petites et moyennes, n'en ont pas. Elles cherchent plutôt des cibles de croissance externe. Donc on a des dividendes, elles ont des rachats d'actions. Donc le marché, il est un peu en vase clos. C'est-à-dire, il n'a pas besoin des investisseurs pour que le capital se retourne, se renouvelle. Et, vous voyez, dans une période de crise, vous avez des gens qui sont acculés à faire des augmentations de capital à prix cassé. Et là, les cours chutent et compagnie. Aujourd'hui, on est dans un environnement, normal. Alors après, on a parlé des finances publiques, on a parlé tous les problèmes du monde, les problèmes, pas encore, mais on pourrait en parler. Mais l'environnement des entreprises aujourd'hui et du marché, c'est qu'on est en vase clos. Les entreprises n'ont pas forcément besoin d'argent de la part de leurs actionnaires. Elles n'ont pas besoin de lever beaucoup de dettes. Et quand elles en doivent l'enlever, elles le lèvent relativement facilement. Je parle encore des moyennes et des grandes. Et donc,
c'est plutôt ça.
Ça montre bien que l'équilibre épargne-investissement au niveau mondial. Pour nous ramener à notre question, c'est pourquoi il y a autant de capitaux qui vont, notamment sur les dettes publiques. Quand on voit que
la bourse n'a pas d'argent.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
C'est très intéressant.